6h54, Monique, il y a le bureau d'enquête indépendante qui va enquêter sur la mort d'un détenu.
C'est un événement qui est survenu à Montréal le 24 octobre. Un homme de 42 ans qui avait été arrêté quelques jours plus tôt. On l'avait emmené à la cour municipale pour comparution. Donc, il était détenu à ce moment-là. Et le BEI indique dans un communiqué qu'il aurait chuté au sol en présence d'autres détenus. Et à ce moment-là, bien sûr, les services d'urgence ont été appelés. Les premiers répondants sont arrivés sur les lieux. On l'a transporté à l'hôpital et il n'est décédé que dimanche. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer que ce n'est qu'hier qu'on a transféré enquête au bureau des enquêtes indépendantes, 7 enquêteurs chargés d'enquêter sur cet événement-là, même si ça remonte, comme on disait, à plusieurs semaines. Et hier, il y a le BEI qui a aussi répondu, je dirais de façon très laconique, aux critiques contre les corps policiers qui ne respectent pas la loi quand il y a blessure grave ou mort d'un suspect en leur présence. On sait que le SPVM semble arriver en tête de liste avec au moins 5 lettres envoyées par la directrice Madeleine Joke pour souligner les manquements, en fait, le non-respect de ces lois-là. On parle surtout de policiers qui ont rencontré des témoins alors qu'on aurait dû geler la scène et tout arrêter. Et des policiers également qui se sont parlé entre eux alors qu'ils étaient sur une scène où il y a eu blessé grave ou décès. Et j'ai cumulé, Paul, plusieurs témoignages de policiers à Montréal depuis la semaine dernière. En gros, on semble pas trop comprendre ce que le BEI attend d'eux. Est-ce qu'on a donné des directives claires aux policiers depuis l'arrivée du BEI en 2016? À la lumière de ce que j'entends, je suis comme pas certaine qu'ils sont au courant de ce qu'ils sont supposés faire ou en tout cas qu'ils comprennent l'importance de geler la scène. Parce qu'on me disait, je vous donne un exemple, on fait quoi? On laisse les témoins rentrer chez eux, on les séquestre pendant 5 heures dans un autobus de la STM en attendant que le BEI arrive. Disons que ça semble assez confus chez plusieurs policiers sur le terrain. Maître Joe parlait d'une méconnaissance complète des obligations prévues par la loi. Encore faut-il, comme je disais, qu'on ait expliqué la procédure. Et il y a des policiers qui comprennent cette procédure-là, mais se disent pas d'accord avec le fait d'attendre 5 heures, par exemple, que les enquêteurs du BEI arrivent. On me donnait plusieurs exemples. Je vous dis, il y a une scène à protéger. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui vient de survenir et 3 coins de rue plus loin, si on n'interroge pas un témoin, on va manquer des éléments ou on va risquer de contaminer une preuve.
Mais là, ça veut dire, par exemple, parce que c'est vrai, quand le moment où l'appel est logé au bureau des enquêtes indépendantes et le moment où les enquêteurs arrivent, puis là, c'est à travers le Québec là, que ça peut se produire. On parle de Montréal, là, mais
oui.
Il y a des délais de plusieurs heures.
Voilà.
Alors, si tu veux avoir un témoignage frais, qui va prendre la déposition du témoin? Ou sinon, ça veut dire que tu es garde pendant 5, 6, 7 heures avant que les enquêteurs arrivent?
C'est souvent le délai, 3, 4, 5 heures. Et exemple que l'arme du crime est 4 rues plus loin, si le témoin, vous ne l'interrogez pas tout de suite, vous ne saurez pas qu'il est arrivé de cette direction-ci et qu'il y a eu une altercation, par exemple, 3 coins de rue plus loin. Donc, ce sont le type d'interrogation que les policiers ont. Et effectivement, ce n'est pas qu'à Montréal qu'il y a des écarts de conduite. Police de Laval, Sûreté du Québec, police de Kativik également, qui ont reçu des fameuses lettres de la direction. Il faut dire qu'il y a quand même 105 enquêtes indépendantes sur l'ensemble du territoire québécois qui ont été initiées depuis juin 2016. Donc, il ne manque pas de travail, disons.
Oui, et dont une sur l'UPAC.
Oui, voilà.
Il faut juste se rappeler...
qui va probablement leur tirer beaucoup d'énergie.
Oui, et puis il y a cette femme qui vendait de l'ecstasy à domicile qui évite la prison.
France Richardson, 62 ans. C'est cette grand-mère qui, vous allez vous souvenir, avait fait preuve de négligence avec avec un pitbull qui a attaqué et blessé 6 personnes, dont 4 jeunes enfants à Montréal-Nord au mois d'août. Ça concernait bien sûr sa cause concernant le trafic d'ecstasy et non pas le pitbull. Elle a vendu de la drogue en présence de sa petite-fille de 3 ans dans le confort de son salon. Elle avait été piégée par un agent double. Elle s'en sort avec des travaux communautaires et une probation. La couronne qui réclamait 30 jours de prison. Et concernant le dossier pitbull, en terminant, je vous rappelle que l'affaire est toujours sur le bureau du DPCP. Aucune accusation pour l'instant. Le chien qui est toujours vivant et ses supporters qui mettent la main à la pâte plus que jamais.
Oui, on va parler
pour essayer
avec,
d'empêcher l'euthanasie.
Maître Donald Goldwater qui veut absolument faire en sorte que le chien puisse être rééduqué et trouver une nouvelle famille, possiblement. On sait qu'il y a un refuge
aux
États-Unis
qui aimerait le rééduquer, en effet.
Merci, on arrive à 7 heures. Autoroute des Laurentides.